mange des gâteaux. Mathis. Bonjour Mathis. Toi, t'es bien plus grand que Sarah ?
Oui. Notre maîtresse, elle nous a expliqué. Elle nous a dit qu'elle a été renvoyée, mais elle a encore une chance. Et maintenant, on fait des rassemblements pour essayer qu'elle revienne dans cette école.
Je crois que c'était un mardi. Elle nous a expliqué qu'il y avait une petite fille qui s'appelait Sarah, qui était venue dans un pays avec son papa et sa maman.
Et puis, après, s'ils ne reviennent pas avec leur deuxième chance, ils ont la chance de revenir à cette école. Mais s'ils n'arrivent pas à revenir, et ben ils vont retourner dans leur pays. On ne sait pas ce qui va se passer.
Et on vous a dit où elle était, Sarah, pour l'instant ou pas ?
Quelque part, dans une prison.
Dans
une prison ?
On s'est dit qu'on voudrait bien que Sarah reste. Oh. Du coup, on a demandé à notre maman de savoir si elle pouvait rester.
Moi, et pourquoi vous aimeriez qu'elle reste, Sarah ?
Parce que moi, en voyant son cahier, on dirait qu'elle comprend notre langage. Elle avait très bien.
Et aussi parce que j'imagine, moi, si j'étais renvoyée dans un pays, donc ce serait triste.
Oui. Oui. Qu'elle avait des très bien, des biens.
Mais pourquoi demain ?
Moi, je dirais qu'elle pourrait revenir à l'école.
D'accord.
D'accord, bah alors on va essayer de demander qu'elle revienne dans votre école.
Ce serait bien gentil, hein, quand même. Ce serait bien gentil qu'elle reste dans notre école.
Notre boulot à nous, les journaleux, en principe, ben, c'est d'être un miroir de ce pays chaque jour, de refléter, de raconter, de vous dire qui vous êtes, enfin, de montrer aux uns comment vivent les autres, de façon à ce que, grosso modo, on ait une idée du pays dans lequel on vit, de ce qu'ils font les gens, de ce à quoi ils aspirent, ce à quoi ils croient, ce qui les indigne, ce qui les fait rigoler, ce qui les fait pleurer, etc. Quand on entend ce qu'on vient d'entendre, on s'aperçoit qu'on se trompe énormément, nous autres, les journalistes. Ces enfants qui sont aussi pertinents, aussi conscients, qui ont pigé, qui ont 7 ans, 8 ans, sont les enfants de l'école de Fontaine-Saint-Martin, un patelin au nord de Lyon, 2124 habitants exactement, on vient de vérifier. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une drôle de France, celle du réseau Éducation sans frontières. D'ailleurs, on va voir que la plupart des gens de ce village, de cette petite ville, comme de Lyon, comme d'ailleurs, ne sont pas forcément liés à ce réseau d'éducation sans frontières, attachés à ce que, au moins les enfants des sans-papiers aient droit à cet enseignement qui est inscrit dans la loi. Au moins que ces enfants, selon la loi, en accord avec la loi de l'ordonnance de 1945, que je rappelle, l'étranger mineur de moins de 18 ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22, eh bien, ne soit pas traité comme le sont aujourd'hui les enfants. Alors, je dis tout ça parce que c'est, vous allez voir l'indignation, la surprise, l'étonnement de cette France, j'ose pas dire profonde, non, on peut dire la France tout court, eh bien on la sent pas d'habitude, on la montre pas d'habitude, on attend qu'elle soit plus quelque chose de plus fort se passe, d'excessif, de violent, etc. Ça fait partie aussi de notre boulot. Là, c'est une autre France qu'on va sentir. C'est une autre indignation, c'est une tristesse, quelque chose qui ne va pas profondément, qui ne va pas avec ces lois sur l'immigration, sur les sans-papiers, la façon de les traiter, notamment dans ces centres de rétention. Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont ces enfants dont on parle là ? Léa, 18 mois, et Sarah, 3 ans. C'est l'histoire de la famille Ali qu'on a présentée hier, qui était en rétention depuis le 16 octobre. Ce sont des gens d'origine albanaise qui ont été arrêtés alors qu'ils devaient passer au tribunal le 13 novembre. La famille était en train de rassembler les éléments nouveaux justifiant une nouvelle demande d'asile. Ils étaient arrivés en France en janvier 2006 au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Fontaine-Saint-Martin où nous sommes avec les enfants. Et à la suite d'un changement de régime en juillet 2005, Monsieur Ali, qui était garde du corps, a été blessé dans un attentat contre un député socialiste, celui qui l'accompagnait. Monsieur Ali en a gardé des séquelles du système auditif. Il a été ensuite menacé de mort et son frère, qui faisait etc., etc. Enfin, des gens qui sont menacés. C'est-à-dire que ce qui est clair, ce qui est avéré, l'avocate qui les défend le disait hier, le retour en Albanie les met leur vie et leur sort en péril. Voilà avec qui nous sommes. C'est difficile d'être avec eux. C'est par téléphone qu'on va communiquer dans ce centre de rétention parce que les journalistes n'y sont pas désirables, même si hier Pascal Pascariello est, vous l'avez entendu, est entré malgré tout dans ce centre. Vous pouvez réécouter l'émission d'hier. Voilà où nous en sommes. On en est à 32 jours, c'est le maximum de retenue dans ces centres. La famille est à l'intérieur de ce centre et nous à l'extérieur. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. Au revoir les enfants.
Comité de soutien. Donc,
moi, Philippe, je pose ma fille.
Ok, ouais. C'est les grandes sections. Et la maternelle, c'est là-bas.
C'est plus loin. En fait. D'accord, c'est là où était Sarah.
C'est là où était Sarah, voilà.
Vous connaissiez les parents de Sarah ?
Ben oui, oui, bien sûr. Enfin, un petit peu du fait du comité de soutien. Quoi.
Ah, vous attendez vos enfants ?
J'attends ma fille.
D'accord.
Voilà. Et après, je l'amène avec moi pour se montrer, en espérant que ça nous permette d'atteindre l'objectif, hein, parce que l'objectif, c'est que, un, ils soient libérés du centre de détention. Enfin, vous connaissez un peu l'histoire ?
Racontez-moi un peu.
Ben, l'histoire, ce sont des gens qui sont venus d'Albanie il y a à peu près 2 ans. La mère était enceinte de 8 mois, une petite fille de 1 an et demi. Et lui, il avait des menaces sur sa vie en Albanie de par son métier. Il était garde du corps d'un homme politique. Son frère s'est fait tuer. Donc, est-ce que c'est des mafias ? On ne sait pas trop exactement. Donc, lui, devant cette situation, après avoir survécu, il a décidé de venir en France. Et depuis, il s'est retrouvé au CADA, c'est un foyer de demandeurs d'asile sur la commune. Il a fait une demande de droit d'asile, hein, pour avoir le statut de réfugié politique, qui a été une première fois refusée. Et dernièrement, donc, les policiers sont venus le 16 octobre le prendre, alors qu'il était en cours de préparation d'un nouveau recours, devant de nouveaux faits, parce que sa mère s'est faite agresser sur place.
En Albanie,
voilà. Et donc, devant cette situation, nous, le fait que, un, ils soient enfermés avec des enfants en bas âge, deux, leur situation quand même mérite peut-être qu'on s'y attarde et qu'on ne les mette pas dans les statistiques des 25 000 personnes qu'on veut renvoyer sans discernement à la frontière, comme ça. On a décidé de se réunir à plusieurs à Fontaine-Saint-Martin.
Vous êtes père de famille, une petite fille qui a quel âge ?
Qui a 8 ans et demi. voilà, qui n'est pas du tout dans la même classe que Sarah, hein, mais bon, on est quand même alerté, à la fois en tant que citoyen et aussi en tant que parent d'élève, parce que les enfants qui sont à l'école et dans la même classe que Sarah, ils se posent des questions. C'est pas normal. On aurait pu très bien les laisser dans leur foyer au CADA, d'autant plus qu'ils allaient peut-être avoir un appartement. Et puis que les recours vis-à-vis du statut de réfugié se prolongent et aillent jusqu'au bout. Ils étaient en voie d'intégration. Je vous emmène.
C'est le comité de soutien.
C'est le comité de soutien.
D'accord. Donc voilà. Tous réunis devant l'entrée de la maternelle, c'est ça, non ?
C'est là, ouais.
On fait de l'école où était Sarah. Vous êtes les deux enseignantes de ce groupe scolaire, voilà, qui est à Fontaine-Saint-Martin.
Oui. C'était la deuxième année qu'elle était scolarisée dans l'école, chez les petits. Elle était très bien intégrée dans l'école, très présente, et ses parents également. On ne l'a plus revue du jour au lendemain. Voilà. Les enfants, ils se posent des questions. Pourquoi n'est-elle plus là? Pourquoi on met sa chaise, etc.
Qu'est-ce que vous avez expliqué à vos élèves alors?
C'est difficile d'expliquer.
Oui, en maternelle, c'est très difficile.
Les enfants nous ont interrogés parce qu'ils avaient des frères et sœurs aussi dans la classe de Sarah.
Nous, c'est la peur qu'il lui arrive quelque chose, que dans son pays, elle se fasse taper. Ou... C'est plus du côté de la peur, de l'inconnu, qu'est-ce qu'elle va retrouver. Et puis en plus, dans la classe, on se pose des questions parce qu'il y a aussi un autre petit enfant qui est dans une situation aussi pas facile. Donc on a aussi peur qu'il parte à son tour.
C'est violent, je pense que c'est en tant que parent aussi. Les gens réagissent, la communauté de Fontaine-Saint-Martin réagit, quelles que soient les opinions des gens, quelles que soient...
C'est en tant que
citoyen humain.
De les voir à travers la vitre, là, en train de nous faire un malheureux coucou, entourés de dizaines de policiers, hein, comme lundi, on a vu.
Lundi, vous avez vu ça ?
Oui, il y a eu un parrainage devant le centre. Donc
devant le centre de rétention, il y a eu un parrainage. En fait, là, c'est cas exceptionnel. D'habitude, ça se fait dans des mairies. Et là, on a dû le déplacer en centre de rétention.
Oui, mais les enfants n'ont pas eu le droit de sortir.
En fait, ils nous entendaient par l'intermédiaire d'un téléphone portable. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont le droit de voir ou d'entendre.
Peut-être pourquoi c'est une dame. Je demandais ça, c'est qui dans le téléphone.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Pascal. Et toi?
Sarah.
Toi, Sarah, tu fais quoi là?
Ah, rien.
C'est pour ça que je pleure beaucoup. J'inquiète. Je ne sais pas comment faire.
Je suis très impressionnée parce que ici à côté de moi, c'est vrai, il y a ma fille, elle tousse. Sa situation, du point de vue de santé, elle ne va pas très bien. Psychologiquement, ça c'était mieux. Si on me prend et on me met directement à l'avion que de me mettre ici, parce que la situation devient de plus en plus lourde, surtout pour les enfants.
C'est Sarah qu'on entend ?
Non, c'est Léa.
C'est Léa, votre plus petite fille.
Voix de Gloria, la maman, et des enfants derrière les barbelés, avec la télésurveillance, avec les projecteurs allumés même la nuit. Drôle d'image, drôle d'ambiance, même si on se retient de faire certaines comparaisons et certaines époques, c'est quand même quelque chose de choquant et qui en choque plus d'un. Pas seulement les professionnels de l'indignation. Au téléphone, donc, par téléphone, et uniquement par téléphone, des nouvelles et des voix qui sont à quelques mètres de nous, en France, et qui ont l'air d'être de l'autre bout du monde, d'un autre monde, d'un autre temps.
C'était interdit de travailler, mais je pouvais trouver facilement du travail. Je voudrais maintenant m'occuper de ma famille. Je suis déjà c'est une expression brûlée de cette situation. Je veux tout simplement travailler pour gagner de l'argent pour la famille et pour moi-même, c'est-à-dire pour survivre. Mon première préoccupation, c'est le côté psychologique de Sarah, parce qu'elle commence à comprendre un tout petit peu. Et bien sûr aussi pour la deuxième fille, Léa. Je vois Sarah, elle me parle toujours de ses copines ou de ses copains de l'école, parce qu'elle est allée à l'école, et elle me parle souvent de cette époque-là. On a même le cartable. Et elle prend toujours cette cartable, elle se met dans un coin et commence à feuilleter les livres. Voilà, c'est ça que je vois et je trouve que c'est ça mon première préoccupation.
Oui.
Tous les jours, j'ai peur parce que c'est une semaine décisive. À chaque fois quand il y a quelqu'un qui frappe à la porte, nous, on est très inquiète, on est très anxieux. Et surtout, quand il y a des gens qui circulent pendant la nuit, soit pour des besoins personnels ou d'autres choses, nous, on est toujours inquiète par rapport au bruit qu'on entend dans le couloir. Je ne dors pas du tout.
Et donc, là, si elle retourne en Albanie, elle craint...
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nous. Je vais vous répondre avec une expression figurative. On va chez le boucher. S'il nous met dans l'avion, on va atterrir chez le boucher.
Allô, Gloria.
Oui, Pascal.
Aujourd'hui, Gloria, on en est où? 31 jours? 31 jours de rétention?
Oui. Demain, jusqu'à 14h.
Jusqu'à 14h. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut se rappeler demain?
Oui.
Vers 14h midi?
Oui, tu fais sonner. Parce que je ne sais pas, c'est 14h, je pense. Sors d'ici. Crois le doigt comme ça.
Vous croisez les doigts.
Oh là là, comment on fait pour dormir?
Vous n'arrivez plus.
Je ne pense pas dormir. Oh là là. Ça va passer, ça va passer, ça va passer.
Gloria Evangelos
n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1.
Il y a la chaise vide à l'école et il y a le portable qui ne répond plus. On se tourne vers Mireille Peloux, qui est de RESF le jour de l'expulsion, parce qu'il y a expulsion de la famille Ali.
Mireille Peloux, vous êtes...
Je suis de RESF à Lyon. Ça fait 32 jours exactement qu'on soutient la famille Ali qui a été arrêtée le 16 octobre. Le portable ne répond plus. La fin de la rétention était aujourd'hui à 14h.
Il faut bien expliquer qu'a priori, au bout de 32 jours de rétention, on est libéré. On n'est plus
au bout de 32 jours, effectivement, la famille était libre aujourd'hui à 14h. Libre, ça ne veut pas dire régularisé. Hein. Ils restaient en situation irrégulière, ils restaient sans papier, mais ils étaient mis en dehors du centre de rétention, aujourd'hui à 14h en théorie. Ce matin, quelqu'un est allé les voir au centre de rétention et donc était devant le centre de rétention à midi quand elle a vu une voiture partir du centre de rétention avec la famille Ali, ce qui veut dire qu'ils sont en train d'être expulsés. On ne sait pas d'où. Bien évidemment, une fois de plus, c'est une expulsion en catimini, à dernière minute, de façon à ce qu'il y ait le moins de bruit possible, j'imagine. Avec des enfants qui sont une née en France, l'autre pas née en France, mais qui ne connaît que la France, qui attendait de retourner à l'école. Depuis 32 jours, cette famille est en prison. Depuis 32 jours, cette famille vit dans l'angoisse de l'expulsion. Depuis 32 jours, Sarah n'a plus fréquenté l'école, ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas aller à l'école. Voilà. Et aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui va leur advenir en Albanie. Enfin voilà, les moyens sont démesurés par rapport à une famille qui n'a rien demandé à personne, si ce n'est que de vivre ici en France. Ça, c'est de l'acharnement, quoi. Je sais pas quel mot on peut employer là maintenant, mais c'est de l'acharnement.
Et puis, il y a ceux qui font le boulot, qui font la besogne. Des braves gars qui se lèvent le matin, qui embrassent leurs enfants, leurs femmes, et puis qui s'habillent. Et leurs habits, c'est un uniforme. C'est un uniforme. Ce sont des policiers qui, ce jour-là, font ce boulot-là. Le boulot de reconduire des familles, c'est ce genre de famille. Et les enfants de 18 mois, de 3 ans, qu'il faut réveiller le matin et qu'il faut attraper et qu'il faut mettre dans des véhicules, jusqu'à des avions qui les rembarquent chez eux. Alors, parmi ces gars-là, il y en a à qui ça plaît qu'à moitié. À moitié seulement. Laurent.
J'ai exercé la fonction d'escorteur de 2003 à 2006. Donc, lorsque j'effectuais ma fonction d'escorteur, donc j'étais commandé la veille pour une mission le lendemain. Donc, je me rendais dans un aéroport lorsque j'étais commandé. Nous expliquions à la personne expulsée que nous étions là en fait pour la ramener dans son pays suite à une instruction du gouvernement.
Vous étiez habillé en tenue de policier ?
Non, les missions de reconduite à la frontière s'effectuent en tenue civile puisque nous sommes policiers en France, mais lorsque nous sortons du pays, nous n'avons aucune autorité dans les pays où nous nous rendons. Nous ne pouvons pas nous promener en uniforme. Ça permet de voyager le plus anonymement possible. Alors, nous montons les personnes à bord des avions, nous les montons menottées ou attachées.
Mais ça, Laurent, expliquez-moi justement, parce que le cas d'un jeune Éthiopien qui est décédé, étouffé, parce que justement, pour pas qu'il crie dans l'avion...
Personnellement, lorsque j'effectuais ces missions d'expulsion, et que la personne avait les menottes et avait sa ceinture de sécurité sur son siège passager, personnellement, quand la personne commençait à être violente et à crier, moi, je m'éloignais pour que les autres passagers remarquent que nous ne touchons pas la personne. Alors, le seul maître à bord de l'avion, c'est le commandant de bord, et c'est lui qui décide si nous pouvons continuer la mission ou si nous devons descendre de l'avion. Ça m'est arrivé de souhaiter que la personne crie, se roule par terre pour descendre de l'avion parce que ces personnes ne méritaient pas d'être expulsées. Ce sont des personnes qui se conduisaient extrêmement bien. Bon, leur seul délit, c'était de ne pas avoir de papier et de travailler clandestinement. Et encore, comme on est soumis à un objectif de 25 000 pour l'année 2007, je pense qu'on ne regarde plus vraiment les dossiers au cas par cas et qu'on prend n'importe quelle personne qui n'a pas de papier sans se soucier de sa situation sociale, familiale, et on l'expulse pour atteindre un chiffre et pour mettre un bâton dans une case.
C'était un avion blanc. Privé?
C'est primitif.
C'était un petit avion. C'était un petit avion.
Dhe mua më tha jo, gruaja se a kërkova asaj policës, se thash unë, ku u gjenë kjo orari, thash unë, se s'kishtë ora.
Quand j'ai demandé à la dame policier, comment vous avez trouvé cet horaire? Parce que vous avez dit avant qu'il n'y avait pas un avion, et elle m'a répondu.
Dhe më tha jo, gruaja që ne jemi nga Parisi, dhe kemi ardhur posaçërisht për vu, kemi ardhur vetëm për juve, se ne këshu punojmë ta shita, deri në 31 djetor, sa që e ka vënë Sarkozia, ne këshu punojmë ta.
Elle m'a expliqué que on est venu de Paris pour vous, parce que jusqu'à 31 décembre, nous on fait de tels vols réguliers pour rapatrier des personnes. Je pense que c'est une politique déjà commencée par le président Sarkozy. Et il m'a expliqué qu'on est venu de Paris à Lyon pour vous. Exprès. Et puis c'est direct Lyon-Tirana sans escale.
Au départ, on pense que on va découvrir d'autres pays, d'autres populations, d'autres civilisations, et on s'aperçoit très vite que c'est un travail qui est assez ingrat à effectuer, puisque on peut être amené à expulser des gens qui mériteraient de rester ici.
Vous pouvez m'en parler justement?
Alors, c'était une personne que nous devions conduire à Amsterdam et mettre dans un avion, depuis Amsterdam, la mettre dans un avion pour l'Amérique du Sud. Donc, cette personne, c'était une mère de famille qui était expulsée avec sa petite fille de 8 ans, également son fils, qui devait avoir environ 5-6 ans. Et donc là, je peux vous dire que ça vous cause un réel problème de conscience quand vous voyez la maman qui ne comprend pas ce qui se passe, quand vous avez la petite fille qui vous sert d'interprète, une petite fille qui est bien intégrée dans la société française, qui parle couramment le français, qui va à l'école, une petite fille de 8 ans qui s'occupe des papiers de sa maman, tout ce qui est administratif, et cette petite fille qui vous demande « Mais pourquoi ? Pourquoi, monsieur ?» Parce que cette petite fille ne comprend pas pourquoi on l'enlève. Elle est arrivée ici en France toute petite, on l'enlève de son école, elle a ses camarades, ses voisins, ses amis, sa maîtresse, et là elle ne comprend vraiment pas pourquoi les policiers l'expulsent. Donc là je peux vous dire que vous vous sentez très très mal. J'ai des enfants et à l'époque de cette mission j'avais une petite fille du même âge. Et là, je pense que ça ne fait pas partie vraiment des attributions de policiers d'emmener une petite fille comme ça avec sa maman. Ça, c'est... Expulser des enfants, c'est un sale boulot. Un sale boulot.
Quoi ? Ça va, quoi ? La police, c'est la police, ils font leur métier ?
Allons, Dédé, reste tranquille.
Ah,
il y avait 6 policiers hommes et 2 policiers femmes, donc il y avait 8 policiers en tout qui nous accompagnaient. Ils nous ont demandé de... Est-ce que vous avez besoin d'aller aux toilettes? Parce que dans l'avion, vous n'avez pas la possibilité de faire les besoins naturels. Ils ont contrôlé mon mari. Ils ont lié les mains. Quand j'ai monté dans l'avion, ou même pendant les escaliers, en train de monter, j'ai commencé à pleurer. Et la petite fille, Sarah, elle m'a dit, pourquoi tu pleures, maman? Tu as peur de l'avion? Mais c'est chouette de monter dans un avion.
C'est des événements de votre vie en tant que policier que vous ne pouvez pas oublier. C'est des choses qui vous marqueront toute votre carrière.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça?
Moi, j'ai quitté ce service.
Vous êtes arrêté de faire ce boulot-là?
Oui, j'ai arrêté d'effectuer ce travail. Et toute personne normalement constituée, je crois que c'est la seule solution. Et je crois que de plus en plus... Alors, effectivement, il y a des criminels, des gens qui sont rendus coupables de délits très graves ou de crimes. Ils n'ont pas à rester en France, mais il y a d'autres personnes... qui mériterait qu'on s'attarde sur leur dossier et qui mériterait de rester en France. Je pense que la politique de l'immigration est devenue aveugle. Si vous avez un minimum de conscience et un minimum de réflexion, lorsque vous y pensez, vous dites « mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça ?» C'est ce que vous dites.
Ce que vous êtes dit, en tout cas.
Moi, j'ai fait une connerie.
Alors évidemment, Laurent ne s'appelle pas Laurent et vous l'entendez un peu, sa voix est déformée, bien évidemment. Voilà, quelqu'un avec un uniforme est doué d'une conscience, il n'est pas le seul à savoir et à comprendre parfaitement qu'il s'agit d'un très sale boulot. Gilles Viard, lui, il est secrétaire adjoint du syndicat SGPFO, la police. Et il faut savoir un petit peu ce que ça coûte, ces expulsions. Hein, de 15 000 à 25 000 euros par personne. Soit si les 25 000 expulsions sont atteintes, ce que nous espérons tous, bien évidemment, il y a quelques semaines encore, très court, eh bien, ça fait entre 375 millions et 500 millions d'euros. Pas mal, hein? Et c'est ça la croissance.
Fixer le quota à 25 000, ça veut rien dire. Alors demain, si on... Imaginons qu'au 31 décembre, on n'en est que 23 000, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller interpeller, entre guillemets, les 2 000 restants? Ou imaginons que si on en a 27 000, on va les relâcher? Enfin voilà, quoi, ça fait plus sourire, malheureusement, qu'autre chose. Mais c'est d'abord des drames humains. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention quand on parle de quotas, surtout pour ce qui est de la lutte contre l'immigration clandestine. Parce que bien évidemment, 25 000, c'est quand même un chiffre conséquent. Puis 25 000, mais combien d'interpellés pour en arriver à 25 000? Ça aussi, c'est une question un peu à se poser. C'est malsain, puis en plus, on voit, bon, c'est pas des délinquants, hein, c'est pas des gens qui ont commis un délit, voire un crime. C'est des gens, tout simplement, qui vivent une détresse, un grand drame humain dans leur pays d'origine et qui ont décidé de tout plaquer, quoi. On voit dans leur regard la détresse, une espèce d'incompréhension, parce que les réseaux mafieux, justement, leur ont peut-être promis l'Eldorado. Et puis ils échouent là, pays des droits de l'homme, derrière des barbelés. De toute façon, ce centre de rétention administrative, c'est vrai, véritablement une verrue. Maintenant, bon, voilà, il y a, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, il y a une politique mise en place par le président de la République. Le ministère de la Justice assurait ce genre de mission, par exemple appeler les retenus s'ils étaient convoqués devant la justice, les appeler pour tout simplement déjeuner, voire dîner, la correspondance, les avocats, la famille, les visites de famille. Et là, depuis un certain temps, le ministère de l'Intérieur a externalisé cette mission et a donné cette mission à une boîte privée, à une société privée. Alors là-dessus, le SGP dénonce ce genre d'externalisation, parce que c'est vrai que si on commence à privatiser ce genre de mission, là on dérape. On va vers une espèce d'industrialisation de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est pas souhaitable, parce qu'encore une fois, ça doit rester la mission régalienne de l'État. De toute façon, c'est simple, hein, 25 000, c'est quand même beaucoup, surtout que 25 000, c'est peut-être 110 000 interpellations à la base. Et puis voilà, il faut se donner les moyens de sa politique. Je pense que le ministre a les moyens de sa politique et fait en sorte de l'appliquer et d'arriver au 31 décembre à 25 000. C'est peut-être pour cela que le ministère de l'Identité nationale a décidé d'affréter des avions privés ou de vraiment ne faire des avions, enfin, des avions que pour cette mission.
Là, on en a combien déjà?
Moi, je crois qu'on est entre 18 et 19 000, je crois, 18 000 et quelques.
D'accord, donc il reste encore 7 000, à peu près 7 000 personnes. À...
Alors les haut-parleurs, c'est un aspect tout à fait pratique, parce que vous avez des personnes qui vivent en communauté dedans, vous avez quand même entre 40 et 140 personnes, ça fait quand même un bruit qui n'est pas négligeable. Quand vous appelez avec un haut-parleur, bon, mais de suite, ça, c'est comme dans un aéroport, hein. Je veux dire, ça provoque une cassure et les gens écoutent.
Qu'est-ce que vous gardez en tête?
Cette petite fille nous a montré au cours de ce voyage ses dessins, ses cahiers d'école, etc. À partir de ce moment-là, vous réfléchissez et vous vous dites, finalement, ce boulot, c'est pas pour moi. C'est ce que je me suis dit. C'est extrêmement difficile. J'effectuais cette mission en traînant les pieds, dès le départ. Nous étions trois escorteurs et nous avons traîné les pieds. Nous n'avions pas envie de les mettre dans cet avion. Nous n'avons pas vraiment d'alternative. Nous avons un ordre de mission, nous avons des instructions, nous sommes obligés d'effectuer cette mission. La seule chose que nous pouvons faire parfois, c'est indiquer à l'expulsé le mode opératoire pour se faire descendre de l'avion.
Vous, Laurent, ça vous est arrivé, ça?
Ça m'est déjà arrivé de dire à une personne de faire du scandale dans l'avion pour qu'elle ne soit pas expulsée. Seulement, bon, après, j'ai expliqué à cette personne les sanctions qu'elle encourait. Mais à ce moment-là, un refus d'embarquement est considéré comme un délit, et cette personne soit retourne dans un centre de rétention et renvoyée sur un avion le lendemain ou le surlendemain, ou est présenté à un juge et peut être incarcéré par décision de justice pendant un mois, trois mois, voilà.
Ça arrive, deux minutes. Je vais venir, point de l'ordre.
C'est-à-dire, ils ont soif, ils ont faim, il y a la télé qui est tombée en panne, ils ont envie d'aller aux toilettes, donc il est obligatoire qu'ils appellent un responsable pour se faire accompagner.
Alors, cette politique d'immigration n'a pas vraiment de réels bénéfices dans le pays même. Par exemple, un Malien qui travaille en France, les statistiques le prouvent, peut faire vivre 25 Maliens dans son pays. Donc, je pense que le seul moyen de régler l'immigration, et c'est l'avis de beaucoup de mes collègues, c'est aider ces pays à la source. C'est-à-dire que, au lieu d'expulser des milliers de gens, c'est extrêmement onéreux. Alors, chaque étranger est expulsé par deux ou trois policiers. Donc, lorsqu'on compte le prix du billet d'avion pour les trois policiers aller-retour, le prix du billet d'avion pour la personne expulsée, l'aide au retour s'il y en a une pour l'expulser, les salaires des policiers qui rentrent également en ligne de compte, toute la logistique derrière, je pense que pour un expulsé, on peut parler d'un chiffre de 15 000 euros par individu. Donc je pense que si on aidait les pays à la source à s'industrialiser, à se développer, il y aurait moins de candidats à l'immigration. Moi-même, si je suis policier aujourd'hui en France, si demain on me dit aux États-Unis, ben monsieur, vous allez multiplier votre salaire par 10, je prendrai mes bagages et je partirai avec ma famille aux États-Unis. C'est tout à fait logique.
Tout à fait logique, et pourtant, vous avez compris, Gloria et Ali et leurs enfants, Léa, 18 mois, Sarah, 3 ans après 32 jours de rétention, ont été reconduits en Albanie.
De ma fenêtre, je vois les escaliers qui mènent à la terrasse de la maison. Et le parti en face de la terrasse, de notre terrasse. Et je ne vois pas grand-chose. Quand nous sommes arrivés en Albanie, il y a plusieurs choses que je ne les ai pas pris en Albanie. J'ai pu prendre seulement le chariot pour la petite fille, quelques petits vêtements pour nous et pour les filles, et j'ai laissé quasi la majorité des choses sur place. Je ne suis pas venu en France pour des plaisirs, pour des vacances, mais si la France ne voudrait pas, je ne voulais pas qu'elle nous retourne en Albanie. Je voudrais qu'elle nous envoie dans un autre endroit, mais pas en Albanie. Je suis un peu émotionné de voir les filles ici. J'ai peur de les laisser sortir dehors et je les garde pour l'instant dans la maison et ne sort pas.
Pardon, Pascal, je suis très très triste. Je suis.
Allô, Gloria. Bon, ça a coupé. On va réessayer peut-être.
Allô.
Allô, Gloria.
Gloria.
Oh, pour nous couper la batterie, ore.
Ah, c'est l'histoire de batterie.
Si, ben, c'est ce qui me drita pour ta caricua.
Il n'y a pas d'énergie électrique pour charger.
Gloria.
Merci à Gloria et Yandou, Chali et leur fille Léa et Sarah. C'était un reportage de Pascal Pascariello. Merci à Gilles Viard, secrétaire général adjoint du syndicat de police SGPFO. Merci aux enseignants de Fontaine-Saint-Martin et à RESF Rhône. Merci à Laurent, le policier. Merci aussi à Artan Courta qui nous a aidés pour la traduction. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. Et sur ces deux sites, vous pouvez, si vous le voulez, laisser des messages, des appréciations, etc. La technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Stéphanie Coulon, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, c'est Christophe Imbert qui attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et puis, vous le savez, lundi, nous partons pour la Colombie. Colombie, la mort facile, l'épreuve de vie. Réclame.